Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni pour ces chants. Moi, ces chants, je retiens la joie qui était particulièrement présente dans ces chants, la joie d'être libéré du péché, la joie d'être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, par le sang précieux de Jésus-Christ, et la joie de vivre en communion avec Dieu. Et ce soir, nous allons aborder un thème qui me tient un petit peu à cœur ces derniers temps. Alors, j'ai la possibilité ce soir de vous le partager. Et alors, ça va être un peu court, le temps que j'ai moi ce soir pour le faire, mais je vous propose vous-même, pour votre part, de méditer sur ce qu'on va partager ce soir, et surtout vous l'accaparer, vous l'approprier, le méditer pour vous. Je crois que le Seigneur veut vous faire du bien aussi en méditant cela. Alors c'est vrai que c'est particulier, mais on va tout de suite ouvrir la Bible et lire un premier passage, et vous verrez de quoi nous allons parler ce soir. Genèse chapitre 3, verset 7. Genèse chapitre 3, verset 7. Donc il s'agit de Adam et de Ève. Et voilà de ce que la parole dit ce soir à propos d'eux. « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. Et le sujet dont il va être question ce soir, c'est cette parole d'Adam, « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » J'ai eu peur. Alors que Dieu avait créé le monde de façon parfaite, c'était un jardin excellent, il avait créé Adam et Ève, ils vivaient en pleine communion avec Dieu, dans la présence de Dieu. Ils étaient là dans la félicité, ils étaient vraiment dans quelque chose d'extraordinaire que nous connaîtrons là-haut, merci Seigneur. Mais en attendant ce jour, nous sommes encore ici-bas. Et Adam et Ève ont péché, ils ont choisi d'écouter la voix de Satan, le serpent ancien, et ils ont goûté du fruit de l'arbre de la connaissance. Et il est dit que, ayant goûté ce fruit, leurs yeux s'ouvrirent, ils se virent nus. Et surtout, Adam a dit, j'ai eu peur et je me suis caché. Et j'aimerais que nous retenions cela, j'ai eu peur. Alors qu'il était dans la communion avec Dieu, qu'il vivait sans peur, sans crainte, il maîtrisait tous les animaux de la terre, il n'y avait aucune peur, c'était un sentiment inconnu de lui, de la femme aussi. Il va avoir peur. Et peur de qui? Peur de Dieu, de son Créateur. Alors qu'il connaissait Dieu, il était en communion avec lui. Et j'aimerais vous dire que depuis cela, depuis ce péché originel, la peur a envahi le cœur de l'homme. Et sans une libération, sans ce rétablissement dans la communion avec Dieu, eh bien, l'homme gît encore sous cette peur, sous la crainte, dans les inquiétudes. Il y a pas mal de façons d'être inquiet, d'être peureux, enfin, la peur de l'avenir, etc. Enfin, bref, beaucoup de sortes de peurs. Et puis, eh bien, qu'est-ce qui engendre cette peur? Se cacher loin de l'Éternel. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que Dieu, on le voit, il cherche l'homme. Jusque dans l'Apocalypse, Jésus sera là, à la porte d'un cœur, il frappe. Dieu veut entrer en communication avec sa créature. Alors c'est peut-être pas facile à accepter, ça dépasse ce que nous entendons dans ce monde à l'heure actuelle, dans l'ère des technologies numériques, etc., de prêcher un Dieu qui est amour, un Dieu qui veut rétablir la communication avec sa créature, mais c'est la vérité. Dieu veut de nouveau avoir une communication avec sa créature, mais il en est empêché parce qu'il y a là un mur de séparation qui est là, c'est le péché de l'homme qui a engendré toute cette peur, qui a engendré par la suite Mais de la peur est née la désobéissance. Là, on le voit, le premier exemple de désobéissance ensuite, c'est Caïn qui ne va pas écouter la voix de Dieu et qui va tuer son frère. Donc, on voit que c'est quelque chose de grave. La peur va à l'encontre du plan de Dieu pour l'homme. Et allant à l'encontre du plan de Dieu pour l'homme, et bien cette peur engendre tout ce qui est contre les vertus que Dieu peut nous donner, contre l'amour, contre la joie, contre plein de bonnes choses qui sont là dans les mains de Dieu pour nous. Et bien cette peur va engendrer la haine, les guerres, les meurtres. Prenons un simple exemple. Je ne sais pas si vous avez un chien. Je ne sais pas si quelqu'un ici a un chien. Non, Jérémy, tu n'as pas de chien encore? Tu as beaucoup d'animaux, mais pas de chien. Moi, j'ai eu un chien. Et ce chien, juste par peur, il a mordu notre voisin. Vous savez, la peur peut engendrer des conséquences qu'on ne maîtrise pas. Et beaucoup de gens vont être animés d'une certaine animosité, justement, par peur. La peur de l'autre. La peur de l'avenir, la peur de ceci, la peur de cela. Et Dieu veut nous affranchir de cette peur. Comment être affranchi de la peur? Comment être affranchi de la crainte? Peut-être que vous dites, mais moi, je ne connais pas la crainte, je ne connais pas la peur. Je n'en suis pas si sûr. Parfois, l'ennemi est bien malin pour parfois nous amener à être dans des situations où de la bouche nous disons que nous n'avons pas peur, mais au fond de nous-mêmes, dans notre au plus profond de nous-mêmes, si le Seigneur ne peut pas n'arrive pas à amener ce sentiment à être éclairé par la parole de Dieu, eh bien cette peur elle peut être lancinante et nous amener à nous détourner de très peu, mais déjà nous détourner de la volonté de Dieu. Cette peur qui, si elle est mal combattue, tient l'homme dans l'incrédulité. Elle cache la face de Dieu. Différentes peurs, peur de mal faire, peur du regard des autres, de l'autre, peur de ce qu'on pense de soi, peur de l'avenir. Et la Bible nous parle de gens qui ont eu peur, comme nous. La Bible nous dit la vérité. Et souvent, des gens que nous... tenons pour exemple le premier d'entre eux, de ces personnes, Abraham, qui a eu peur de Pharaon. Oui ou non? Je n'invente pas, hein, c'est écrit. Est-ce qu'il a eu peur, Abraham? Et qu'est-ce qu'il a voulu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté sa femme comme sa demi-sœur, comme sa sœur. C'était pas faux, mais c'était pas non plus la vérité. Et ça va engendrer toutes sortes de conséquences mauvaises. Saül va avoir peur face aux Philistins, son orgueil va en prendre un coup, et il va offrir le sacrifice qui n'était pas son rôle. Il était le roi, et c'était au prophète de faire cela, c'était à Saül de faire cela. Et Saül va avoir un jugement sur sa vie. La peur qui engendre des attitudes, des comportements allant à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. Les 10 espions, il y en avait 12, mais il y en a 10. 10 qui ont découragé le peuple, qui ont vu ce pays de Canaan qui était excellent, un pays où coulait le lait et le miel. Et pourtant, ils vont décourager tout un peuple en disant qu'il y avait là des gens puissants comme des géants. La peur, alors que Dieu voulait livrer ce pays entre leurs mains, ils vont errer 40 ans dans le désert jusqu'à ce qu'une nouvelle génération arrive et prenne possession du pays. Pierre, l'apôtre Pierre, qui... sur la parole de Dieu, à marcher sur les eaux. On aimerait bien voir ça. Mais se regarde en soi, et puis prenant conscience de ce qu'il est en train de vivre, il va avoir peur. Et puis il va commencer à couler. Il va commencer à s'enfoncer. Alors que s'il avait continué à regarder Jésus, à continuer à persévérer dans cette parole qu'il avait reçue de Jésus, « Viens, viens Pierre », il aurait continué à marcher sur l'eau. Plus facile à dire qu'à faire, peut-être, mais... c'était Pierre et c'était Jésus, voilà. Les disciples, dans la chambre haute, après la crucifixion, ils sont là enfermés, pourquoi? Par peur des Juifs, alors que tout le long du jour, jusqu'à ce moment-là, ils étaient avec Jésus, parcourant le pays de long en large, prêchant la bonne nouvelle avec Jésus. Ils sont là, immobilisés, enfermés dans la chambre haute, à cause de la peur, à cause de la crainte des Juifs. le geôlier de Philippe, lui qui avait cette position de garder la prison, eh bien, il va avoir peur quand Dieu va libérer Paul et Silas. Eh bien, il va avoir peur, il va vouloir se donner la mort. Et Paul va lui dire, non, nous sommes ici. La peur qui peut nous amener jusqu'à nous donner la mort, tenter de se suicider. Ce sont des choses graves, graves, graves. Et nous, est-ce que nous avons peur? Là, nous avons vu des exemples bibliques. Abraham a eu peur. Saül, les 10 espions. Pierre, les disciples, le geôlier de Philippe, et nous, et moi, des peurs qui sont là dans le cœur. Et je peux vous en partager une, moi, que j'avais, mais peut-être pour que cela parle à quelqu'un. Très longtemps, j'ai eu peur de mon père. Mais pas la bonne peur de mon père. J'ai eu peur de mon père, c'est-à-dire que c'était un sentiment de crainte qui m'empêchait d'avoir une relation épanouie avec lui. Alors pouvoir avoir des moments particuliers avec mon père, des bons moments avec mon père, je croyais qu'il fallait mériter ces moments-là. Alors je faisais des efforts pour lui plaire dans tel et tel domaine. Et puis ça a faussé complètement notre relation jusqu'à ce que je connaisse le Seigneur et que le Seigneur me libère entièrement de cela. Il a fallu qu'il me le montre déjà en méditant la parole, en marchant avec lui, et puis le Seigneur m'a montré cette peur, et puis j'ai pu avoir enfin une discussion d'homme à homme avec mon père, alors que j'étais déjà bien, bien avancé en âge, bien au-delà des 18 ans. Et oui, on peut avoir peur de certaines personnes. Nous pouvons avoir peur de certaines choses, mais Dieu veut nous libérer. Et je le disais, la peur est quelque chose de terrible, si elle n'est pas combattue comme il faut. Elle engendre des inquiétudes. Et parfois même, elle fait perdre la raison. Elle fait perdre la raison. Le bon sens, l'équilibre. Et comme dans tous les exemples que nous avons vus concernant ces hommes de Dieu, eh bien, elle pousse à faire n'importe quoi, parfois. Alors méditons sur ces choses. Réalisons, au travers de ce qui est annoncé ce soir, que parfois, eh bien, cette peur peut être lancinante. La crainte peut être là dans notre vie. Et moi, c'est pas pour rien que je vous partage cela ce soir, c'est que parfois, on peut être pris et puis ne pas réaliser qu'au plus profond de soi, eh bien, finalement, on a certaines inquiétudes, moi, concernant mes enfants, concernant l'avenir professionnel, concernant certaines choses. Et on ne les a pas amenés au pied du Seigneur, on ne s'en est pas détaché, ce sont des fardeaux qui sont gardés dans le cœur. Et puis finalement, on ne se conduit pas comme il faut. Et puis, ce dont on a chanté, la joie, la paix, le bonheur d'avoir été pardonné, eh bien, on ne le vit plus comme il faut. Et puis, eh bien, là, on sent comme une frustration dans le cœur. Et le Seigneur voudrait nous montrer justement qu'il y a là des choses qu'il faut abandonner. Et dans Philippiens, il est dit, ne vous inquiétez de rien. Alors, j'ai sauté des étapes, mais nous y reviendrons. Ne vous inquiétez de rien. Alors, pour pouvoir vivre cette parole de l'apôtre Paul, il va falloir passer par certaines étapes. Et avant celle-là, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que Jésus a eu peur ici-bas? Oui, non. Je vois des visages dubitatifs. Non, on ne s'est pas trop posé la question. Pardon ? Voilà, l'angoisse n'est pas la peur. Moi, quand je vois la vie de Jésus, qu'est-ce que je vois ? Il a apaisé la tempête. Vous avez déjà vécu une tempête ? Moi, j'ai déjà vécu plusieurs cyclones, puisque je suis originaire de l'île de la Réunion. Je sais ce que c'est qu'un cyclone, et ce n'est pas souvent ces petites tempêtes parfois qu'on voit ici. Quand on voit les volets commencer à vouloir s'arracher, qu'on voit les toits des maisons complètement arrachés, etc., on n'emmène pas large. Et Jésus, qu'est-ce qu'il est dit de Jésus? Alors qu'il est dans une petite barque avec les apôtres, eh bien, Jésus, il va menacer les éléments. Jésus, il n'a pas dit un mot, il va juste menacer les éléments. Et le calme va revenir. Ah, je crois que mon Seigneur, il n'a pas peur de la tempête. Il n'a pas eu peur de la tempête. Quand je vois Jésus, il a fait face à un homme dont tout le monde avait peur. Cet homme était possédé par une légion de démons. Il était capable d'arracher les chaînes. Il vivait dans des sépulcres. Il était nu. Et Jésus va délivrer cet homme. et des milliers de démons vont sortir de lui-même pour aller dans des pourceaux, se jeter du long d'une falaise. Mais Jésus n'a pas eu peur de cet homme, il n'a pas eu peur de ces démons. Et Jésus va faire face, il va même délivrer cet homme. Jésus n'a pas eu peur de la mort. Il a voulu la croix, il a voulu aller jusqu'au bout. Et Jésus n'a pas eu peur de ce moment. Jésus, quand on le voit, il affronte les autorités avec calme. Il affronte les autorités avec calme, alors que le commun des mortels à cette époque-là savait que pour un rien, on pouvait être mis en prison et peut être abandonné en prison. Tellement d'exemples où on voit Jésus n'ayant pas du tout peur, parce qu'il était en communion avec Dieu, parce qu'il connaissait l'amour de son Dieu, parce qu'il était lui-même rempli du Saint-Esprit. Mais Jésus va connaître l'angoisse. Et je crois que c'est quelque chose de différent. Quand il est là dans le jardin de Gethsémané, il est là et il sait ce qu'il va souffrir, il sait ce qu'il va porter comme sur son dos, entre guillemets, il va porter le poids des péchés de l'humanité. Il y a là ce combat dans la foi qu'il va mener, et son combat, eh bien, va l'amener à transpirer des grumeaux de sang, mais il est là, il dit, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Et cela, on le sait, que ce n'est pas de la peur. Le Seigneur est en train de lutter pour que la volonté de Dieu se fasse. Et il sait qu'il va être abandonné du Père sur cette croix, parce que Dieu ne pourra pas tourner son regard vers lui sur cette croix alors qu'il portera les péchés de l'humanité. Il sait, alors que lui n'a pas connu le péché, alors que lui a vécu une vie sainte, pure, il réalise là dans ce jardin tout le poids de ce péché qu'il va prendre, alors qu'il a vécu en haïssant le mal. Jésus a haï le mal de toutes ses forces, de toute sa pensée, de toute sa personne, et il va devoir porter ce mal sur la croix. Non, Jésus n'a pas connu la peur. Alors, pour nous, en 2012, ça passe vite, fin de 2012 bientôt, est-ce qu'il y a une solution à la peur, à la crainte, aux inquiétudes? Oui, disent les anciens. Oui, il y a une solution. Bien sûr, merci Seigneur, parce que Dieu a résolu de sauver sa créature. Dieu n'a pas résolu d'accepter que le péché et le salaire du péché soient constamment sur l'homme, à savoir la mort. Dieu veut que nous en soyons délivrés. Et j'aimerais que nous puissions lire un passage dans Romains au chapitre 5, verset 19. Romains 5, 19, court passage. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, d'eux-mêmes, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul homme. Et cet homme, c'est Jésus. Lui qui a vécu sans péché. Lui qui est né de la Vierge Marie. Lui dont les Écritures, l'Ancien Testament, annoncent la venue. Lui dont on voit l'agonie dans Ésaïe 53. Lui qui va porter nos maladies. Et lui qui va ressusciter. Dieu, pour que la peur, pour que nos craintes, que nos inquiétudes soient annihilées, soient combattues, Dieu a résolu quelque chose de nouveau, créer un être nouveau. Pas une solution bancale, pas quelque chose de on va reprendre et on va casser, on va... Non, une création nouvelle, une humanité nouvelle. En Jésus-Christ. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer ça ce soir, mais Dieu a envoyé Jésus. Et c'est lui l'homme nouveau. Et c'est lui qui nous ouvre la route sur ce chemin où la peur n'a plus droit d'agir, où les craintes, où les inquiétudes sont amenées à être bannies. Comment ? Alors, voyons un texte dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans Jean. Évangile de Jean, chapitre 20. Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils étaient donc dans la peur. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Alors que les portes sont fermées, les disciples sont dans la peur, Jésus vient. Les disciples sont immobilisés, ils sont sans espoir, ils sont dans une défaite apparente, on va dire. Quand on regarde une situation comme ça, humainement, on se dit, mais il y a très peu de chance pour eux, c'en est fini d'eux, alors que c'est le début. C'est le début de l'histoire chrétienne qui commence. C'est le début de l'œuvre de Dieu dans ce monde. Et Jésus vient alors que les portes sont fermées. Combien ici ce soir peuvent dire que Jésus est venu alors que notre cœur était fermé, alors que notre vie était peut-être à un moment où nous ne voyons plus d'espoir, nous n'avions plus d'espoir, que nous ne voyions plus on ne voyait plus la solution. Combien peuvent dire cela? Et Jésus s'est invité dans nos vies par la parole de la prédication, par le témoignage de quelqu'un, par une cassette, par un enregistrement audio. Le Seigneur a accompagné sa parole et il est venu et il a parlé à notre cœur, à notre entendement, à notre conscience et on a réalisé dans quelle situation on était. Et Jésus vient encore ce soir. Comme il a été dit dans la présentation des chants, Jésus est présent au milieu de ceux qui sont réunis en son nom. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est présent. Le Seigneur est présent ce soir. Il est présent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. 2 ou 3, on est plus que 2 ou 3. Le Seigneur, il est fidèle à ses promesses. Mais il veut voir en nous quelque chose de plus, la foi. La foi dans notre cœur. La paix soit avec vous. Voilà déjà comment perdre cette crainte, bannir cette crainte, recevoir la paix de Dieu dans son cœur. Recevoir cette parole, non pas comme une parole banale, mais la parole de Jésus qui est adressée à ceux qui viennent à lui. La paix soit avec vous. Et le Seigneur ne donne pas la paix comme le monde donne, mais il la donne pour de bon. Une paix totale. Une paix qui surpasse toute intelligence, nous dit la parole de Dieu. Une paix même qui, dans les situations les plus inextricables, est capable de nous donner le calme. Est capable de nous rendre cette communion avec Dieu possible. Capable de nous donner, cette boussole, hein, nous indiquer l'endroit où aller. Oui, le Seigneur veut nous donner la paix ce soir, avant toute chose. Ça, c'est le plus important. Recevoir la paix. Et le Seigneur va souffler sur eux, ce qui est le signe pour eux de cette nouvelle naissance, de ce Saint-Esprit qui va être là dans leur vie, va les animer. Et on va voir tout au long du récit que leur vie va changer, qu'ils vont être d'apôtres qui étaient dans la peur, qui ne comprenaient pas les Écritures, qui étaient durs à comprendre, même s'ils vivaient des miracles. Et bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rechercher Dieu. Ils vont être capables, je me souviens de Pierre qui était là dans le jardin de Gethsémané, pas capable de veiller une heure avec Jésus. Ils vont être là, ces apôtres, à veiller, à prier toute la nuit, à chercher Dieu, non pas n'importe comment, mais selon sa parole. Et Dieu va leur donner de comprendre les Écritures. Et ils vont se rendre compte qu'un disciple a fait faux bond, Judas, et qu'il va falloir le remplacer. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'était la pierre qui manquait à l'édifice pour que les promesses de Dieu se réalisent. Et en Actes chapitre 2, ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils vont être, comment dire, animés d'une puissance, d'un dynamisme extraordinaire. Et ces hommes, ces personnes qui étaient là dans la chambre haute, eh bien, ils vont révolutionner le monde. Et Dieu veut que nous vivions cela. Et Dieu veut nous partager de son esprit, que son esprit qui n'a pas peur du monde, qui n'a pas peur du malin, c'est-à-dire le diable, qui n'a pas peur de la façon de penser de ce monde. Encore aujourd'hui, malgré ces technologies, le Seigneur, sa parole, elle est puissante. Elle est capable de nous montrer combien Dieu veut nous bénir dans ces temps précis où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Dieu veut nous faire du bien. La paix, c'est l'anéantissement de la peur. Et ils reçoivent un esprit nouveau. Gloire à Dieu. Et cette paix, c'est quoi? Eh bien, c'est la défaite de Satan. C'est Jésus qui vient dans la chambre haute. C'est Jésus ressuscité que la mort n'a pas pu retenir. C'est, comment dire, c'est l'agrément de Dieu. C'est Dieu qui dit, Jésus que vous avez crucifié, Jésus que vous avez tenu pour le coupable, et bien moi je le ressuscite. La mort ne peut pas le tenir. Et ce Jésus, il est vivant aujourd'hui. Il est monté au ciel et il a répandu l'Esprit. Et ce soir, qui que nous soyons, nous pouvons avoir accès à Jésus. Ce soir, là, dans notre cœur, à notre place, assis, nous pouvons avoir accès à Jésus. Et là, si quelqu'un entend cet enregistrement, il peut avoir accès à Jésus parce que Jésus est vivant. Et cette relation de communication, elle est rétablie. Tu peux de nouveau t'entretenir avec le Dieu créateur par le moyen de Jésus ce soir. Dans un grand respect, certes, mais sans la crainte. Sans la crainte d'un châtiment pour ta vie, tu peux tout à nouveau connaître Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, avoir une relation nouvelle avec nous. Alors, est-ce que c'est possible, en 2012, d'avoir cette relation? Oui? Oui? S'il y a encore des doutes, et bon, on peut regarder le cas de Thomas, qui n'était pas là ce jour-là, qui n'a pas vu Jésus rentrer 8 jours plus tôt. Et il a dit, mais moi, si je ne vois pas Jésus avec ses marques dans les mains, la marque sur son côté, eh bien moi, je ne croirai pas. Et combien peuvent dire cela encore aujourd'hui? J'en étais. Je n'ai pas dit les marques dans les mains. Mais voilà, si ce Jésus ne se manifeste pas, moi, je ne croirai pas. Et qu'est-ce que va dire Jésus? Est-ce qu'il va juger Thomas? C'est là où nous voyons que Jésus est Dieu. Il va lui dire, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Alors que Thomas n'était pas là 8 jours auparavant, Jésus savait ce qu'il avait dit. Jésus savait comment il avait réagi. Et il va lui dire simplement, voilà mes mains, voilà mon côté. Mais simple, ne regarde pas, approche tes mains, viens. Et ce soir, je crois que cette parole est pour quelqu'un. Non, ne te contente pas simplement d'écouter la parole de Dieu. Mais viens, expérimente-la, cette parole de Dieu. Mets ta foi en action. Viens goûter que Jésus est bon. Viens goûter que la parole de Dieu est bonne. Comme le dit c'est dans Jean aussi, je crois. Ô viens et vois. Et nous le chantons aussi. Ô viens et vois que Dieu est bon. Que Dieu est grand. Que Dieu est amour. Que Dieu veut te faire grâce. Que Dieu veut manifester sa bonté à ton égard. Et sa bonté te poussera à lui demander pardon pour tes péchés. Alors Thomas va avoir, après cette expérience, va avoir cette révélation, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Il va reconnaître Jésus comme son Dieu. Et ce soir, je le crois, le Saint-Esprit veut se révéler au cœur de quelqu'un, veut révéler que Jésus est Dieu. Dieu fait homme, mais Dieu. Et que c'est par lui que nous pouvons aller au Père. Et ce soir, ça peut être votre expérience. Mais la clé, c'est la foi. Il faut la faire agir. Et cette foi, elle était, puisqu'elle était basée sur l'Esprit de Christ qui était là, eh bien, nous voyons cette foi agissante même dans l'Ancien Testament. Des hommes et des femmes ont expérimenté Dieu dans l'Ancien Testament, alors que Jésus n'était pas encore venu. Mais parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont mis leur foi en action, ils ont cru en la parole de Dieu. Et ce soir, c'est ce que Dieu attend dans notre cœur. Il voit dans notre cœur comment nous sommes venus, quelles craintes nous avons, quelles inquiétudes nous avons, quelles peurs nous avons. Et Dieu seul peut nous en délivrer. En rétablissant la relation avec lui et nous-mêmes, pour notre part, faire agir notre foi dans la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on va choisir ? Qu'est-ce qu'on va choisir ? On le voit dans les Écritures. Abraham a fait agir sa foi. Et s'il a eu peur au début, à la fin, ce n'est plus quelqu'un qui a peur. Qui n'a même pas peur d'offrir son fils en sacrifice à Dieu. Vous lirez cela dans Genèse. Et puis c'est Dieu même qui va retenir sa main. Parce qu'il sait que Dieu est capable même de ressusciter un mort. Et cela, quand nous le vivions, le Seigneur nous met en joie, nous met en paix, nous met en assurance. On ne peut pas faire autrement que d'être heureux dans la vie, de savoir que Dieu peut même ressusciter des situations mortes, ramener à la vie un couple, ramener à la vie même physiquement quelqu'un, rétablir quelqu'un dans tout son bon sens, cette personne qui était possédée à Gadara, ce démoniaque, eh ben, il va être rétabli dans son bon sens. Et les gens ne vont même pas réaliser. Ils vont dire, mais c'est pas lui. Si, c'est lui. Il va être rétabli dans son bon sens. Et c'est ce que Dieu veut, que nous ne soyons pas des illuminés, mais des gens heureux. Heureux de connaître Dieu. Heureux, et Jésus va lui dire, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Des gens capables ensuite de manifester, au travers de leurs paroles, de leurs attitudes, la grâce de Dieu. Et il y a un exemple, il y a l'exemple d'Étienne, il y a beaucoup d'exemples, mais c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, celui d'Étienne qui aurait bien eu l'occasion d'avoir peur de cette lapidation dans le livre des Actes, mais il ne va pas avoir peur, il va voir Jésus debout sur son trône, pour lui. Et il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et nous savons que cette prière de Jésus a été exaucée. Le Seigneur veut nous pardonner. Le Seigneur nous a pardonné à condition que par la foi nous entrions dans cette promesse. Et ce soir, je crois, le Seigneur veut nous faire du bien, veut nous libérer de nos peurs, de nos craintes, de nos inquiétudes. Comme dans Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien. » Alors, si nous vivons dans le péché, si la relation avec Dieu n'a pas été rétablie, si la communication avec Jésus-Christ n'a pas été établie, la connexion entre guillemets, eh bien, cette parole, elle ne vaut rien. Elle ne sera pas agissante dans nos vies. Mais si la relation avec Dieu a été rétablie, si nous avons accepté Jésus, si nous l'acceptons, si nous ne nous endurcissons pas notre cœur ce soir, si nous recevons la parole de Dieu, eh bien, cette parole de l'apôtre, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, remplira votre cœur, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Eh bien, cette parole, nous la vivrons. Nous la vivrons. Et Dieu nous gardera dans la paix. Et la paix de Dieu nous conduira sur le chemin, nous gardera sur le chemin. Et cette défaite de Satan à la croix, à la résurrection, nous la vivrons. Cette parole qui a eu du pouvoir, parce qu'elle a été reçue, on va même dire avec foi, par Adam, par Ève, et bien cette parole, nous la recevrons plus. Et nous serons capables de dire non, parce qu'il est écrit, il est écrit que. Amen. Voilà, prier. Je vais laisser la place à Jérémie. Pour prier.
Merci Seigneur. Quelle joie de savoir que le Seigneur est tout prêt à nous donner sa paix, à bannir de nos cœurs la crainte. Et je pense aussi à un texte où il dit « L'amour parfait bannit la crainte. » Et Dieu nous a aimés à la perfection en donnant son Fils Jésus. Oui, quelqu'un peut-être vit dans la peur du lendemain, la peur des circonstances, n'a pas de travail, ne sait pas comment il va faire demain, pas de logement. Peut-être quelqu'un dit « Oui, mais moi je suis malade, j'ai la peur de la mort parce que je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. » Peut-être quelqu'un vit dans les angoisses comme eh bien, Jésus a pu le vivre. Il est le mieux à même de vous comprendre. Il est le mieux à même de vous délivrer de cette peur. Il veut vous communiquer sa paix. Oui, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Et si quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui, qu'on intercède avec lui ou avec elle, eh bien pour recevoir la grâce de Dieu, approchez-vous devant et puis avec simplicité, nous prierons avec vous. Je vais demander à Michael, à aussi Brice de prier pour vous si vous approchez. Et puis au moins, vous verrez que Dieu est vivant et que Jésus est bon envers ceux qui mettent leur foi en lui.